je pense que ça vaut la peine. Et des moments comme celui-ci, c'est des moments importants parce que c'est des moments où on réfléchit. Alors, je réalise que plus le temps passe, et moins on a le temps de réfléchir. Et s'il y a des choses auxquelles il faut réfléchir, c'est à notre âme, c'est à notre éternité. Voilà. Et encore ce soir, eh bien, qu'on puisse, au travers de sa parole, permettre au Seigneur de nous amener à faire le point pour savoir où on en est avec le Seigneur. Il y a ce verset, j'ai introduit par ça, parce que quelque part c'est un peu ce qu'on va voir, où il nous a dit « Puisse être-tu froid ou bouillant ?» Alors je ne sais pas ce soir si on est froid sur le plan spirituel ou bouillant, mais mon désir c'est qu'on soit vraiment bouillant pour Dieu. Alléluia. Et que si ce n'est pas le cas, si on n'a pas encore rencontré le Seigneur, eh bien, il faut faire ce pas et il faut lui ouvrir notre cœur. On va lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres. Un texte que, en principe, les chrétiens connaissent, on l'a certainement déjà lu, mais on ne s'y arrête pas forcément. Et je voudrais qu'on le fasse ce soir et qu'on essaye d'en retirer quelque chose pour nos vies, pour nos cœurs. Je voudrais vous montrer que, quelque part, dans la parole, rien n'est inutile. Et que tout ce qui a été écrit, ce n'est pas là par hasard, ce n'est pas des histoires les unes derrière les autres qui s'alignent l'une après l'autre, mais même les moindres détails, Dieu a voulu que ce soit là pour que ça nous instruise. Alors regardez, on va lire ça, acte 28, acte des apôtres, chapitre 28, on va lire les 6 premiers versets. Il est dit ceci, alors je vous rappelle un petit peu le contexte, dans le chapitre précédent, acte 27, il y a cette fameuse tempête dans laquelle l'apôtre Paul s'est retrouvé pris. Puis le bateau s'est fracassé, et puis finalement les hommes qui étaient sur le bateau ont pu être sauvés, et puis ils se retrouvent sur l'île de Malte. Et il est dit ceci, « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il eût été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Et ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dire que c'était un Dieu. Amen. Voilà. Alors je dois vous avouer que l'histoire de cette vipère qui s'attache à la main de l'apôtre Paul, là, ça a dû être quand même assez impressionnant. Hein, vous aimez les serpents, vous ? Moi, non. les serpents de loin, ou alors dans un aquarium. Voilà. Il y a une vitre au milieu, dans un vivarium. Voilà, j'ai cherché le nom. Hein. Voilà, mais c'est vrai que ça a dû être quand même assez surprenant. Et il y a quand même quand on y réfléchit, il y a quand même des choses qui sont là pour nous interpeller. Vous avez remarqué que déjà, premier détail, au verset 2, il nous est dit qu'il faisait grand froid. Petit détail, mais qui est là, qui n'est pas là par hasard. Et il semblerait que cette vipère était là, cachée, tapie sous un tas de buissons, de broussailles, vous voyez, qui était là. Je ne sais pas si elle dormait, je ne sais pas si elle était à moitié, vous voyez, mais elle était là. Et la Bible précise expressément, et d'ailleurs moi je l'ai souligné, que si elle est sortie à un moment donné, c'est par l'effet de la chaleur, vous voyez. Tant que c'était froid, ma foi, elle était là, mais personne ne l'aurait vue. Elle dormait, elle devait dormir là. Mais dès que la température s'est réchauffée, ça l'a réveillée, et c'est là qu'elle s'est attachée à la main de l'apôtre Paul. Et je crois que quand on y réfléchit un petit peu et qu'on fait une transposition sur le plan spirituel, mais il y a tout un enseignement là, quand on y réfléchit. À savoir que quand la température spirituelle d'une vie ou d'une église ou même d'un pays est froid, hein, quand sur le plan spirituel, on est froid, ben quelque part, le serpent, qui est un petit peu l'image du diable, hein, dans la Bible, le serpent, cette vipère-là, c'est un petit peu l'image de l'ennemi de notre âme. Le serpent, ben quelque part, il nous laisse tranquille. Il n'y a pas de problème, hein, il ne nous embête pas trop, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où la température spirituelle monte ou remonte, c'est-à-dire à partir du moment où il y a des hommes et des femmes qui veulent vraiment marcher avec Dieu, qui veulent vraiment donner leur cœur au Seigneur, qui veulent vraiment dire « Seigneur, moi, je veux te plaire, je veux t'honorer, je veux vivre une vie qui te plaît », alors là, c'est plus la même chose. Et là, tout d'un coup, le serpent, qui peut-être jusque-là était nous laissait tranquille, tout d'un coup, eh bien, se réveille, voyez, pour essayer de nous mordre et nous essayer de nous empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Vous avez remarqué, quelqu'un qui s'approche du Seigneur, quelqu'un à qui vous témoignez de la grâce de Dieu, à qui vous témoignez de ce qui s'est passé dans votre vie, vous l'invitez à écouter l'évangile, il vient, son cœur est touché, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur, et puis il commence à y avoir tout un tas de trucs qui se mettent en place, hein, des oppositions, des difficultés, hein, qu'il n'avait pas avant, et alors qu'il est en train de faire une démarche spirituelle vis-à-vis du Seigneur, vous avez l'impression que tout d'un coup, il y a comme un déchaînement. Mais combien de gens ont vécu ça, vous voyez ? Mais quelque part, c'est un petit peu l'image, vous voyez ? Tant que sur le plan spirituel, on reste froid, tant que la température spirituelle de notre vie, de notre âme, elle est froide, ben quelque part, l'ennemi de notre âme, il ne va pas venir nous réveiller, hein. Il va nous laisser tranquille. Hein. Mais quand quelque part, dans notre cœur, il y a un feu qui s'allume pour Dieu, il y a ce désir de marcher avec Dieu, là, ce n'est plus la même chose. Et quelque part, l'ennemi va essayer de nous arrêter. Voilà pourquoi, si peut-être ce soir, on a des combats, parce que quelque part, je ne sais pas moi, on a pris des décisions pour Dieu, on veut marcher avec Dieu, ben j'ai envie de dire c'est normal. C'est normal parce que c'est un petit peu ce qui ressort ici. Vous savez, un des stratagèmes de l'ennemi de notre âme, c'est quelque part de faire penser qu'il n'est pas là ou qu'il n'existe pas. Cette vipère, s'il n'y avait pas eu ce feu qui allumait ce jour-là, mais personne n'aurait su qu'elle était là, hein. Personne ne l'aurait vu, et pourtant il y était, hein, mais personne ne l'aurait vu. Et sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Hein. Le diable se plaît, alors moi je ne suis pas quelqu'un qui voit le diable partout, mais enfin la Bible nous montre qu'il est réel, hein. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin, et son but c'est de faire penser qu'il n'existe pas. Par contre, quand quelqu'un commence à s'approcher du Seigneur, c'est marrant, là tout d'un coup ça se déchaîne, d'une façon ou d'une autre. Rappelez-vous, je vais prendre d'autres exemples. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament des amis de Daniel. On connaît un peu l'histoire de Daniel, du prophète Daniel. Souvent, bon, on pense à Daniel et ses trois amis. Sauf que quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas que Daniel et ses trois amis, il y en avait d'autres. Hein. Ils sont arrivés tout un tas de jeunes juifs, là, de jeunes garçons, beaux, sans défaut, nous dit la Bible. Hein, et puis ils ont été élevés à la cour de Nebuchadnezzar, on a voulu leur enseigner la langue des Babyloniens, etc., etc. Mais vous remarquez une chose, c'est que ceux qui ont accepté le compromis, c'est-à-dire tous les autres, hormis Daniel et ses trois amis, mais quelque part, ben, eux, quelque part, ils n'ont pas eu de problème. Hein. Ils n'ont pas été embêtés, eux. Hein. Ceux qui, quelque part, se sont fondus dans le paysage babylonien, ceux qui, quelque part, finalement, se sont trouvés pas si mal, et se sont dit, ben, finalement, on est bien ici, hein. Finalement, on va faire comme tout le monde, ben, eux, ils n'ont pas trop eu de problème. Mais les quatre qui, eux, Daniel et ses trois amis, qui, eux, ont résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi, qui, eux, ont voulu marcher avec Dieu, qui, eux, ont voulu honorer Dieu, qui ont voulu plaire à Dieu, qui ont pris des positions pour Dieu, par contre, pour eux, ça n'a pas été la même chose. On sent que le serpent s'est déchaîné, a essayé de les faire tomber, a essayé, quelque part, de les entraîner vers le bas. Ils sont passés par la fournaise, ils sont passés par la fosse aux lions, on a essayé, de les faire tomber, de trouver des trucs qui n'allaient pas dans leur vie. Enfin, on leur a fait des... tout un tas de choses, mais pourquoi ? Mais parce que dans leur cœur, il y avait quelque chose qui bouillait pour Dieu. Dans leur cœur, il y avait ce désir de marcher avec Dieu, voyez ? Et on voit cette différence. Tant qu'on est froid, ou tant qu'on reste froid, tant que quelque part, les choses de Dieu, on les met un peu de côté, mais le diable va nous laisser tranquille, hein ? Il n'y a pas de souci. Hein ? Mais à partir du moment où vraiment ça, il y a ce désir de marcher avec le Seigneur, là, ça va être autre chose. C'est pour ça qu'il y a un verset que j'aime beaucoup, qui m'a fait réfléchir ces derniers temps, dans le psaume 119. Alors vous rappelez que le psaume 119, c'est le plus long. Hein, franchement, lisez-le. Il est très intéressant. Et au verset 173, psaume 119, verset 173, ça m'a interpellé, ça. Le psalmiste, je le trouve d'une lucidité. Et je me dis, cet homme, alors est-ce que c'est David ou un autre, il a compris. Il dit ceci, « Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances ou tes commandements. » Voyez ? Et laisse-moi le verset, s'il te plaît. Il y a des choix qui ne sont pas neutres. Hein. Il y a des choix qui ont des conséquences dans nos vies. Voilà. Et le choix des ordonnances de Dieu, des commandements de Dieu, ce n'est pas un choix anodin. Et je comprends que le psalmiste dit, il commence en disant « Que ta main me soit en aide ». Parce qu'à partir du moment où on fait le choix de Dieu, le choix de la parole de Dieu, le choix des commandements de Dieu pour notre vie, on a besoin de l'aide du Seigneur. parce que le serpent, il va être là pour essayer de nous décontenancer, pour essayer de nous déstabiliser, pour essayer de nous mordre, pour essayer de nous empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Et quelque part, je me dis, mais ce gars-là, le psalmiste, inspiré par le Saint-Esprit, mais il a tout compris, vous voyez, il a compris que ce choix-là, c'est pas un choix anodin, c'est pas un choix secondaire, c'est pas un choix neutre, c'est un choix important. Je sais pas si on a fait ce choix dans notre vie, le choix de Dieu, le choix de marcher selon les critères de Dieu, le choix vraiment d'honorer Dieu. Mais si c'est pas le cas, j'aimerais t'encourager à le faire ce soir. Mais quelque part, j'aime sa lucidité spirituelle, que ta main me soit en aide, parce que je réalise que derrière ce choix-là, ben, ça va impliquer des choses. Il va y avoir certainement des combats, vous voyez. Et je crois que c'est important de le réaliser. Maintenant, faisons le contraire. Choisissons d'être léger. Moi, je sais pas. Choisissons la paresse spirituelle. Choisissons la négligence. Se dire, ouais, bon, allez, après tout, est-ce que vraiment c'est important, etc., etc. On va être tranquille. Hein, on va être tranquille. Hein, vous savez, pour descendre sur le plan spirituel, ça va toujours très vite. Par contre, pour vouloir aller plus loin, il y a toujours des combats. Tout est affaire de température spirituelle. Et ce soir, je crois que ça vaut la peine de se poser la question, mais c'est quoi ma température sur le plan spirituel ? Vous voyez ? Est-ce que ça bouillonne dans mon cœur pour les choses de Dieu, pour le Seigneur ? Ou est-ce que, ouais, bof. Ou est-ce que je suis complètement froid ? Est-ce que je suis complètement froid ? Ça vaut la peine de se poser la question. Regardez, on va aller un petit peu plus loin. Ce qu'on a lu dans Actes 28... le principe, du moins, vous le retrouvez ailleurs. Regardez dans Acte 16. Alors là, Acte 16, c'est un moment important. C'est le moment où l'évangile va pénétrer en Europe. Vous vous rappelez la vision du Macédonien, l'apôtre Paul. Il a cette vision et puis Dieu lui donne cette direction. Et puis il y a la conversion de Lydie, la marchande de pourpre. Vous connaissez un peu l'histoire. Et puis là, à un moment donné, il y a un détail. Là encore, ça m'a interpellé. Regardez, il est dit, c'est Paul et Silas. Il est dit, comme nous allions, écoutez bien ça parce que ça c'est important. Comme nous allions au lieu de prière. Une servante qui avait un esprit de python. Tiens, on retrouve encore une fois de plus le serpent. Vous voyez ? Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Et notez bien, parce que moi c'est important, le verset précédent, « Comme nous allions au lieu de prière. » Ils n'allaient pas n'importe où. Hein. Ils vont au lieu de prière. Et là, qu'est-ce qui se passe, hein ? Ben voilà que cette femme qui est là, qui est tenue par un mauvais esprit, elle fait son apparition. Voilà, elle fait son apparition et quelque part, je l'ai dit, il est question du python, encore une fois le serpent, et quelque part, elle vient comme une espèce de chewing-gum, là, vous voyez ? Elle vient leur coller au basque. Vous voyez ? Et j'ai envie de dire, alors je vais le dire comme ça, hein, de cette façon-là, croyez-moi, il est dit... qu'ils allaient au lieu de prière, croyez-moi, s'ils avaient été dans un dancing, elle n'aurait jamais fait son apparition. Hein. Ils n'auraient jamais rencontré cette femme-là. Alors bien sûr, là, je prends l'extrême, bien sûr. Hein, mais c'est juste pour que vous compreniez. Mais c'est quand même marrant, vous ne trouvez pas ? Ils vont au lieu de prière, et là, comme par hasard, à ce moment-là, pas avant, mais à ce moment-là, cette femme, elle fait son apparition. C'est quand même dingue, ça. Alors qu'elle est tenue par un mauvais esprit. Et voyez, j'ai envie de dire, on retrouve là, un peu là, sur le principe, la même image que dans Acte 28. Acte 28, au moment où la température monte, cette vipère, elle sort, elle s'accroche à Paul. Ici, au moment où quelque part, ils vont au lieu de prière, cette femme tenue par un mauvais esprit leur colle au basque. Voyez, Paul, c'est une vipère qui lui a collé au basque, qui l'a accroché. Ici, cette femme leur colle au basque. Ce que je veux dire, voyez, ce que je veux dire, c'est que Paul et Silas n'allaient pas n'importe où. Ils allaient au lieu de prière, voyez. Et quelque part, l'enseignement spirituel pour nous, il est celui-ci. C'est que quand on décide de donner à notre vie certaines directions, ici, ils allaient au lieu de prière. Quand on décide dans nos vies de donner à nos vies certaines directions, certaines orientations, c'est-à-dire on fait le choix de donner à notre vie l'orientation, la direction de la crainte de Dieu, par exemple. Ce désir d'honorer Dieu, je veux donner cette orientation à ma vie, ce désir d'avoir une communion personnelle avec Dieu, ouais, je veux donner cette orientation à ma vie. Ben, quelque part, vous pouvez y aller, quand vous faites ce choix-là, d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y aura toujours quelque chose qui sera là pour nous en empêcher. pour qu'il y ait des combats, pour que ce soit pas évident. Et vous pouvez y aller. C'est, hein, quand vous prenez le désir, quand vous prenez la décision d'orienter votre vie d'une certaine façon, en tout cas dans la direction des choses de Dieu, vous pouvez y aller. Tout de... Vous voyez, je vais prendre peut-être juste un petit témoignage. J'en avais déjà parlé, je vais en reparler parce que ça colle avec ce que je suis en train de dire. Ça me fait toujours de la peine quand je pense à elle, cette jeune fille qui est de la famille de Rosetta, qui avait décidé de s'engager avec le Seigneur. Elle avait pris la décision de donner son cœur au Seigneur, de s'engager avec le Seigneur, de passer par les eaux du baptême. C'est toujours bien, hein, gloire à Dieu, hein, se réjouit quand quelqu'un le fait, hein, quand quelqu'un prend la décision. Voyez. Et elle allait le faire sous peu, s'engager avec le Seigneur. Ben, c'est marrant, juste à ce moment-là, ben, elle a rencontré un garçon. Alors, c'est pas un péché de rencontrer un garçon. Sauf que le problème, c'est que celui-là, les choses de Dieu, ça l'intéressait. Mais alors, absolument pas, quand je dis absolument pas, vous savez, des fois, vous avez, bon, ils sont pas fermés, oui, ils sont pas fermés, bon, ben, c'est quoi, ils sont intéressés, ils viennent voir, tout ça. Mais alors, lui, c'était pas le cas. Hein. Alors, lui, il fallait même pas lui en parler. Voyez. Et puis, ils ont commencé à se fréquenter, voilà. Résultat des courses, bon, mais ils se sont mariés, ok, d'accord, les choses de Dieu, ça a été fini, l'engagement du baptême, ça a été fini, hein, ouais, et puis bon, quelques paires d'années plus tard, ça n'a pas duré longtemps, ça a terminé, ça a mal fini, hein, et je passe sur bien des détails. Mais vous voyez que c'est marrant, c'est au moment où elle s'apprêtait à donner cette direction à sa vie, à s'engager avec le Seigneur, c'est quand même important de dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. C'est à ce moment-là que ce garçon lui a collé au basque. Hein, voyez, et quelque part, l'a détourné complètement des choses de Dieu. Voyez, et c'est un peu ce qui se passe ici dans le texte qu'on a lu. Voyez, au moment où ils vont au lieu de prière, c'est marrant, cette femme, elle arrive là. Bon, vous connaissez la suite du texte. Hein, Paul, à un moment donné, il a été fatigué, nous dit la Bible. Au bout de quelques jours, ça a duré un moment. Au bout de quelques jours, il s'est retourné. Il s'est tourné vers cette femme. Il a dit à l'Esprit, je t'ordonne de sortir d'elle. Et puis, ça a été terminé. Vous voyez, mais... C'est marrant quand même. Et quelque part, ça doit nous interpeller parce que encore aujourd'hui, c'est des choses qu'on retrouve dans nos vies. Hein. Il y a parfois des... Voilà, on décide vraiment de marcher avec Dieu, on décide vraiment de prendre certaines décisions. Et il y a toujours quelque chose, d'une forme ou d'une autre. Hein. Vous décidez de passer un peu plus de temps avec le Seigneur. Allez, je ne sais pas moi. Vous décidez de dire, bon, mais Seigneur, je réalise que j'ai besoin de, à ce niveau-là, d'avoir un peu plus de temps avec toi. Comme par hasard, à ce moment-là, moi, je sais pas, je prends un exemple. Le patron, il vous propose de faire un peu plus d'heures. Hein. Vous voyez ? Alors, c'est pas un péché de faire un peu plus d'heures, mais comme par hasard, c'est à ce moment-là. Donc, forcément, vous voyez, etc. Comme par hasard, vous décidez de servir Dieu, vous décidez de, ouais, d'être un peu plus conséquent dans les choses de Dieu. Et puis là, à ce moment-là, tiens, une ancienne connaissance, gars ou fille, tiens, reviens, là, comme par enchantement, tout d'un coup, là, tiens, qu'est-ce que tu fais, tatati, talala. Vous voyez ? Alors, vous vous dites, tiens, oh, ben, tiens, c'est pas anodin tout ça. Il faut qu'on le réalise. Hein. Voyez, il faut qu'on le réalise. Hein. Et je crois que c'est important. Regardez, ça, on le retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Moi, ça m'interpelle, ce principe. C'est tout sauf hasard. Rappelez-vous du roi Ézéchias. Alors, Ézéchias, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose. C'était un bon roi. Ézéchias, vous savez que dans l'Ancien Testament, vous avez toute une suite de rois, des bons, des mauvais. Celui-ci marcha avec Dieu, celui-ci ne marcha pas avec Dieu. Il y en a qui ont fait, ils ont marché avec Dieu, mais pas de tout leur cœur. Enfin, vous avez tout, voyez, et c'est très instructif tout ça. Mais Ézéchias, ça a été un des meilleurs, avec Josias peut-être, voyez, et Josaphat. Voyez. Et à un moment donné, la Bible nous dit que vraiment, il va prendre de bonnes options pour sa vie. Regardez, on va l'afficher, 2 Chroniques 31, verset 20. Il est dit, voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Alors regardez les orientations qu'il a prises. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Vous voyez, c'est des bonnes orientations ça quand même. Hein, et la Bible en rend témoignage. Il agit de tout son cœur, donc pas à moitié. Faisons pas les choses à moitié, avec Dieu ça ne sert à rien et ça ne donnera rien. Il agit de tout son cœur. Et résultat, et il réussit. Dans tout ce qu'il a entrepris, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de lutte et de combat, mais la réussite a été là. En recherchant son Dieu, pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Donc on peut se dire, ouais, c'est quand même bien, il a pris des bonnes décisions, il a compris où était l'important, il a compris ce qui était essentiel de ce qui était secondaire, donc il fait ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, vous voyez. D'autant plus que, ça aussi c'est important, Ézéchias, il n'a pas eu un bon exemple devant les yeux, parce que si vous regardez qui était son père, c'était le roi Akaz. Et le roi Akaz, c'est un roi qui, franchement, a été abominable aux yeux de Dieu. Il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, il a trafiqué avec l'occultisme, enfin, il a touché à des trucs qu'il n'aurait pas dû. Et Ézéchias, il a eu ce mauvais exemple devant les yeux. On ne peut pas dire qu'il a eu un père qui a marché avec Dieu. On aurait pu dire, bah, tiens, il a eu le bon exemple. Il vaut mieux avoir des bons exemples devant. Mais lui, il n'a pas eu un bon exemple, mais à un moment donné, il aurait pu dire, bah, je vais faire comme lui. Non, lui, il a choisi de marcher différemment. Vous voyez, comme quoi la vie avec Dieu, c'est personnel. On ne peut pas se cacher derrière les erreurs des autres pour dire « Ouais, mais moi, je suis comme ça parce qu'un tel ou un tel, c'est un faux prétexte. » Ézéchias, il ne s'est pas caché derrière ça. Quand il est arrivé sur le trône, oui, son père avait fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il avait eu des attitudes contraires à ce que Dieu voulait. Mais lui, il a décidé de marcher de tout son cœur avec Dieu. Et la Bible nous dit que c'est très intéressant. Donc, on vient de lire ça. Et regardez ce qui suit. Mais tout de suite derrière, 2 Chroniques 32, on passe au chapitre d'après, verset 1er. Et notez bien, après ces choses, pas avant, après ces choses et ces actes de fidélité, qu'est-ce qui se passe ? Parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. C'est quand même dingue ça, c'est quand même marrant. Après ces choses, il décide de marcher avec Dieu, il décide de faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est vrai, voyez, de tout son cœur, il cherche Dieu de tout son cœur, et bien, paf, juste à ce moment-là, et bien, voilà que ce Sanchérib, qui est un peu l'image de l'ennemi, là, voyez, d'ailleurs, c'était un ennemi, l'ennemi assyrien qui est arrivé, et les Assyriens, si vous regardez la Bible, dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas des bonnes intentions, hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, les Assyriens, c'est pour ça que le prophète Jonas, quand Dieu lui a demandé d'aller à Ninive, il a dit non, 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 moi j'y vais pas. Pourquoi ? Parce que Ninive, c'était la capitale de l'Assyrie. Et les Assyriens, ils avaient pour réputation d'être abominables. C'était des gens sanglants, c'était des gens qui ne faisaient pas de quartier. En général, derrière eux, ils ne laissaient pas de traces, hein. Voyez, donc des gens qui avaient du sang sur les mains. Donc quand il est dit paru Sanchérib qui pénétra en Juda, c'était pas pour faire du sentiment qu'il venait, c'était pour tout saccager, pour tout détruire. Et c'est quand même marrant, après ces choses, pas avant, mais juste à ce moment-là, tac, voyez, comme dans les textes qu'on a lu avant, au moment où la température remonte, à ce moment-là, le serpent, paf, il sort. Voyez, au moment où ils vont au lieu de prière, paf, cette femme, elle arrive. Au moment où il marche, il fait ce qui est vrai, ce qui est droit, paf, paru Sanchérib. C'est quand même marrant. Ça. Mais tout ça, c'est là pour nous interpeller. Tout ça, c'est pour nous montrer que à partir du moment où on fait des choix pour Dieu clairs, nets, vraiment, on se positionne, des fois, il faut être courageux. Ben là, il y a parfois des combats, il y a des choses qui se passent. On se dit, mais c'est marrant. Tant qu'on faisait n'importe quoi, tout allait bien. Et tant que quelque part, on ne se préoccupait pas des choses de Dieu, tant que bon, on faisait comme tout le monde, il n'y avait pas de soucis, hein, tout allait bien. Puis tout d'un coup, vous décidez de mettre un peu d'ordre dans votre vie, vous décidez, voyez, d'aligner votre vie avec la parole. Ben là, alors là, il paraît des choses, il vous arrive des choses, il vous tombe des choses. Mais il ne faut pas que ça nous étonne. Il ne faut pas que ça nous étonne. Si on est froid sur le plan spirituel, le serpent, il dort. Hein. Il n'y a pas de souci, on ne le gêne pas. Mais si quelque part, spirituellement parlant, eh bien, il y a quelque chose qui s'allume en nous, il y a un feu qui s'allume en nous. Hein. Je pense aux disciples d'Emmaüs qui vont dire « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» Je ne sais pas où on en est dans notre cœur, si ça bouillonne pour Dieu. Mais si c'est le cas, eh bien, il ne faut pas s'étonner que quelque part, il y ait des luttes et des combats. Et je crois que ça, ce soir, c'est important d'en être conscient, pour dire, bon, ok, d'accord, je comprends un peu mieux pourquoi tout d'un coup, là, ça rugit un peu, pourquoi là, il y a des réactions, pourquoi là, tout d'un coup, il y a des gens qui vous parlent un peu moins, tout d'un coup, mais c'est normal. C'est normal, vous voyez, c'est normal. J'ai envie de dire, ben, on n'est pas maso, mais c'est presque bon signe, quoi. Ça veut dire que quelque part, ça dérange, hein. Ça veut dire que ça dérange, ça veut dire que l'œuvre de Dieu, elle se fait, ça veut dire que le Saint-Esprit fait son œuvre, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, ça veut dire que quelque part, ça dérange. Et que, hein, un peu comme ce serpent d'Acte 28, là, hop, il est dérangé. Parce que sous l'effet de la chaleur, il a été dérangé, vous voyez. eh bien, qu'on puisse déranger l'ennemi de notre âme. Hein. Qu'on puisse déranger l'ennemi de notre âme. Voyez. En terminant, je pense à ce vieux chant qu'on chantait, on peut le chanter encore, hein. C'est le DPS 98 qui dit « Par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. » Les plus anciens, vous connaissez ce chant, hein. « Par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Ouais. » Mais donne-moi ton esprit toujours. Ouais. Mais moi, j'ai envie de dire, Seigneur, ce soir, rends-nous bouillants. Qu'on soit toujours bouillants. Je sais pas, et ce soir, peut-être, ça vaut la peine de se poser la question, mais est-ce que dans mon cœur, comment c'est dans mon cœur pour Dieu? Est-ce qu'il y a ce bouillonnement intérieur? Ça veut pas dire. Vous savez, moi, j'ai noté sur mes notes, être bouillant pour Dieu, ça veut pas dire être sans défaut. Ça veut pas dire être parfait. Ça veut pas dire ne pas avoir des hauts et des bas. Ça, c'est normal. Voyez, mais être bouillant pour Dieu, ça veut dire que malgré le fait qu'on est conscient de ce qu'on est, de comment on est, des fois on a des hauts, des bas, on a encore quelques faiblesses, quelques fragilités ici ou là, mais dans notre cœur, on ne peut pas faire autrement que de dire « Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux que dans mon cœur, je veux pas être froid, je veux même pas être tiède. Puisse être tu froid ou bouillant, et si parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Enfin, on connaît ces textes, mais ce soir, ça vaut la peine de se poser la question « Mais où est-ce que j'en suis avec Dieu ?» Parce que finalement, la vraie question, c'est ça. Est-ce que ça bouillonne dans mon cœur ou est-ce que quelque part ouais, ça dépend les moments, un coup oui, un coup non, un coup c'est froid, un coup c'est ben il faut se poser la question, hein. Il faut se poser la question, peut-être ce soir, Seigneur veut nous interpeller, mais où est-ce que tu en es? Où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Est-ce que moi en tout cas, mon désir c'est de dire Seigneur, je suis pas parfait, il y a encore des manques, mais Seigneur, je veux que ça bouillonne pour toi. Après, Seigneur, l'ennemi peut se manifester d'une façon ou d'une autre, essayer de, comme on le chante parfois, l'ennemi peut rugir, essayer de me faire peur. Qu'importe. L'important, c'est que tu sois avec moi. Alléluia. Et ces trois exemples qu'on a pris, j'aurais pu en prendre d'autres, mais sont là vraiment pour nous interpeller ce soir. Peut-être ça vaut la peine de se poser la question, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur? Est-ce que la température spirituelle est bonne? Ou est-ce que quelque part je me suis un peu refroidi ou je suis tiède ou... En tout cas, j'ai envie de dire, Seigneur, je veux que ce feu brûle pour toi jusqu'au bout dans mon cœur. Ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est pas rien. Hein. Allumer ce feu à l'intérieur. Parce que quand on ne connaît pas le Seigneur, on est froid sur le plan spirituel. On est froid. Voyez. Mais quand Dieu allume ce feu en nous, quand on le rencontre, qu'on réalise son amour pour nous manifester à la croix du calvaire, mais c'est comme un feu qui s'allume. On se dit, mais Seigneur, mais comment j'ai pas pu ouvrir les yeux avant? Comment j'ai pas compris ça avant? Comment Seigneur, j'ai pu rester si loin de toi pendant toutes ces années? Comment j'ai pu me comporter comme ça? Mais pourquoi? Parce qu'un feu qui s'est allumé. Voyez, et quand il y a ce feu qui s'allume, ben, faut pas s'étonner si quelque part il y a des luttes et des combats qui sont là. Si l'ennemi essaie de nous déstabiliser, c'est normal. Mais je veux en être conscient pour pouvoir dire comme le psalmiste que ta main me vienne en aide. Parce que j'ai choisi la voie de tes commandements. Et que Dieu nous aide encore aujourd'hui. Qu'on puisse faire monter cette prière, Seigneur, que ta bonne main me soit en aide. Parce que j'ai choisi et je continue de choisir la voie de tes ordonnances. Alors que Dieu nous aide encore ce soir. Je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais que les uns et les autres, on puisse vraiment peut-être rentrer en nous-mêmes, s'examiner nous-mêmes et dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Est-ce que vraiment, Seigneur, ça bouillonne ou est-ce que j'ai peut-être besoin de venir à toi ou de revenir à toi? Mais c'est tellement important. Alléluia. Alors que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Seigneur, encore ce soir, tu nous rappelles ces choses qu'on sait pour la plupart,